RFI midi, à Paris 10h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonjour à toutes et à tous. L'escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan. L'armée pakistanaise indique ce samedi avoir fait un essai de lancement de missiles sol-sol pour préparer ses soldats et valider des paramètres techniques. Les Australiens étaient appelés aux urnes ce samedi. Élection fédérale marquée par le pouvoir d'achat, l'environnement et les droits de douane américains. L'Australie qui est un partenaire commercial privilégié des États-Unis. En France, le meurtrier d'un jeune malien dans une mosquée a bien agit seul, sans revendication idéologique, guidé par une envie obsessionnelle de tuer. Ce sont les mots de la procureure hier qui s'est justifiée que la qualification terroriste ne soit pas retenue dans ce dossier. L'armée pakistanaise indique avoir fait un essai de lancement de missiles sol-sol. Déclaration qui intervient sur fond de tensions accrues avec l'Inde voisine depuis une attaque dans laquelle 26 civils sont morts au Cachemire indien. Attaque attribuée par New Delhi à Islamabad, ce que nie le Pakistan. Hier, l'ambassadeur pakistanais à l'ONU a tenté de trouver des relais internationaux pour éviter tout affrontement direct, comme en 2019 à New York. Karine Auten.
Le Pakistan dit avoir activé tous les acteurs internationaux possibles, a rencontré le patron de l'ONU deux fois cette semaine pour évoquer le dossier et lui demander d'intervenir auprès de l'Inde. Il espère même une possible médiation des États-Unis qui s'entendent bien avec les deux pays. Il continue à réclamer une enquête indépendante sur l'attentat meurtrier au Cachemire et prône la reprise du dialogue pour éviter une escalade qui pourrait se transformer en conflit régional, impactant potentiellement près de 2 milliards de civils. L'ambassadeur Asim Iftikhar Ahmad.
Il est tout à fait plausible qu'ils se préparent à ce genre d'action. Ils l'ont déjà fait en 2019. C'est pourquoi nous avertissons que toute agression déclencherait une nouvelle dynamique à laquelle le Pakistan serait contraint de réagir. Nous avons vu cela en 2019. Une escalade très dangereuse. Nous ne voulons pas que cela se reproduise.
Par ailleurs, l'Inde a suspendu sa participation au traité sur les eaux de l'Indus après l'attentat au Cachemire qui garantit un accès à l'eau à plus de 40 millions de Pakistanais, ce qui s'apparente à un acte de guerre selon Islamabad. Karine Auten, New York RFI.
L'armée israélienne dit être déployée dans le sud de la Syrie en soutien aux Druzes. Israël qui a mené la nuit dernière plus de 20 frappes en territoire syrien, des frappes ciblant des sites militaires à Dera, près de Damas, dans la région de Hama et de Latakié, des frappes particulièrement violentes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'agence officielle syrienne fait état d'un mort civil. Ces frappes interviennent après des affrontements entre combattants de la minorité druze défendus par Israël et des groupes armés proches du nouveau pouvoir. À Gaza, 11 morts, dont 3 enfants dans une frappe israélienne à Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne. C'est ce qu'indique la défense civile, précisant que parmi les victimes, tous membres d'une même famille élargie, figurent donc 2 enfants de 1 an et un bébé d'un mois. Hier déjà, l'organisation faisait état de 42 morts dans plusieurs frappes. Volodymyr Zelensky dit ne pas vouloir jouer avec les courtes trêves proposées par Vladimir Poutine et notamment ce cessez-le-feu du 8 au 10 mai. Impossible de s'entendre sur quelque chose en 3, 5 ou 7 jours. Ce n'est pas sérieux, dit le président ukrainien. Kiev qui demande un cessez-le-feu total et un conditionnel comme prérequis à toute négociation avec la Russie. En Australie, l'heure est au dépouillement. Les élections fédérales ce samedi étaient marquées par le pouvoir d'achat, l'environnement et les droits de douane que veut imposer Washington. Si les électeurs sont assez critiques du bilan du Premier ministre, le gouvernement travailliste devrait être reconduit au pouvoir, selon les sondages à Sydney, Grégory Pless.
Dans le centre de Sydney, les électeurs ne sont pas totalement satisfaits du Premier ministre et de la politique qu'il a menée ces 3 dernières années. Mais à l'image de Peter, beaucoup considèrent que les travaillistes restent malgré tout une meilleure option que les conservateurs.
Je pense qu'ils n'en ont pas fait assez sur des sujets comme l'environnement et l'activité minière, mais leur politique en la matière reste malgré tout bien plus ambitieuse que ce que propose l'opposition.
Peter Dutton, le chef de file des conservateurs, n'a pas fait une très bonne campagne. Par ailleurs, il a largement emprunté à la rhétorique et aux idées trumpiennes. Une stratégie qui, pour beaucoup d'Australiens, s'est avérée rédhibitoire dans un pays où, selon un récent sondage, Donald Trump est considéré comme une plus importante menace à la paix dans le monde que Xi Jinping ou Vladimir Poutine. Et pour Ciro, Peter Dutton ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
Il pensait que c'était une bonne stratégie de surfer sur la vague Trump pour l'emporter, mais ça s'est finalement retourné contre lui.
Reste à savoir maintenant si les travaillistes l'emporteront avec une majorité absolue ou relative. Grégory Pless, Sydney, RFI.
À Singapour, des élections à valeur de test pour le nouveau Premier ministre. Le Parti d'Action Populaire qui dirige le pays depuis 1959 détient une majorité écrasante de sièges au Parlement. Il est peu probable qu'il perde le pouvoir, mais dans l'opposition, le Parti des Travailleurs bénéficie progressivement de davantage de soutien et a gagné des sièges ces dernières années. RFI Midi 6 en France, une semaine après le meurtre d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard dans le sud du pays, descend centaines de fidèles se sont de nouveau rassemblés hier devant la mosquée de Grande-Combe pour la prière du vendredi, un moment de recueillement également partagé par d'autres mosquées un peu partout en France. Reportage d'Aram Beng à Paris.
À la sortie de la prière de ce vendredi à la mosquée de Javel dans le 15e arrondissement de Paris, Aminata, une fidèle de 36 ans, exprime sa tristesse et sa peur après l'assassinat d'Aboubacar Cissé.
On est meurtri, on est triste, on a perdu un frère dans des circonstances terribles, horribles, qui font très peur parce qu'on laisse la haine s'installer dans ce pays, la cruauté s'installer et on voit que c'est tout un système qui participe, que ce soit le gouvernement, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la jeunesse maintenant aujourd'hui, parce que ça commence à faire peur cette jeunesse-là.
Outre la peur de la violence grandissante chez les jeunes, Aminata s'est dit choquée par la réaction tardive des autorités politiques, notamment celle du ministre de l'Intérieur, qui a mis plus de 48 heures avant de se rendre sur place.
Ah, le mot choc, il est trop petit pour dire à quel point il y a eu une absence totale de l'État par rapport à cet événement-là. Donc les raisons ont ouvert la porte qui ont fait que l'État à ce moment-là a agi. Mais c'est vraiment triste d'arriver à ce point-là parce que ça montre la considération que l'État a pour la religion musulmane.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau recevra lundi prochain la famille d'Aboubacar Cissé.
Et hier, le procureur de Nîmes a tenu une conférence de presse pour évoquer ce meurtre. La qualification terroriste n'a pas été retenue, suscitant l'incompréhension, mais la procureure s'en est justifiée, précisant que le tueur avait agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique, guidé par une envie obsessionnelle de tuer qu'il avait largement partagée sur les réseaux sociaux. Rien ne permet pour l'heure d'expliquer pourquoi il entre dans cette mosquée, il s'en prend à la victime. Le procureur a insisté sur ces éléments. En Espagne, 6 mois après les inondations meurtrières dans la région de Valence, certains secteurs continuent à en subir les conséquences. C'est notamment le cas des agriculteurs dont l'activité représente 2% du PIB de la région. Les exploitants se battent pour obtenir des aides à la hauteur des dommages causés. Élise Gazangel.
6 mois après les inondations dans la région de Valence, certains champs dévastés ne sont plus cultivables. Mais les nouvelles aides du ministère débloquées le 23 avril dernier pour indemniser les propriétaires sont loin de les satisfaire. Vicence Noverques à Lombay, cultivateur de pêche.
Ils paieront 11 800 euros par hectare pour exproprier, mais juste les arbres ont coûté 30 000 euros. Et il faut au moins 3 à 4 ans pour obtenir de la production. Je fais quoi? C'est un combat de David contre Goliath.
Autre problème pour le secteur, le torrent de boue a détruit les routes et systèmes d'irrigation, mais il a aussi déplacé une espèce invasive dans les champs d'orangers. Près de Chiva, José Tamarit est découragé.
Ce champ, on va l'abandonner parce qu'on ne va pas réinvestir de l'argent pour cultiver l'oranger alors que ces roseaux vont grandir et les couvrir. Cet arbre, dans 3 mois, il sera mort.
Au total, près de 500 millions d'euros d'aide ont été alloués au secteur et le ministère de l'Agriculture n'exclut pas de débloquer de nouveaux fonds à mesure que les besoins seront identifiés. Élise Gazangel, Chiva, RFI.
RFI, midi et presque 10 minutes ici à Paris, 10h10 en temps universel.